La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de la présentation de cette heure est, comme vous pouvez le voir, la foi de Jésus. Et voyez-vous, être préparé pour le retour de Jésus devrait être l'objectif de tout adventiste, n'est-ce pas? Mais que signifie être prêt pour le retour de Jésus? Qu'est-il attendu des croyants des derniers jours? En Luc, chapitre 18, verset 8, où allons-nous? Luc, chapitre 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Nous lisons là. Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Supposons que le frère Thierry dise à son épouse Colette, eh bien, avant qu'il ne quitte la maison, Colette, dis-moi, est-ce que je vais trouver de la nourriture quand je reviendrai? En disant ça à sœur Colette, Thierry lui laisse entendre par là qu'il espère voir le repas préparé quand il rentrera, n'est-ce pas? Eh bien, ce fut exactement la même chose pour Jésus, en Luc 18, verset 8. En parlant de son retour, il laissa entendre à ses auditeurs qu'il espérait voir la foi vivante, je précise, quand il reviendrait. Et voyez-vous, cette question de Jésus est reliée à l'événement qui nous est décrit au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Et tout particulièrement au verset 14. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 14 et au verset 14, où là, nous lisons, en Apocalypse 14, 14, « Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. » Et en continuant la lecture, il est plus que manifeste qu'il s'agit ici du retour de Jésus, n'est-ce pas? Et notez que avant cet événement, avant le retour de Jésus, Jean voit un groupe ayant deux caractéristiques. En effet, au verset 12 du même chapitre, nous lisons, « C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et c'est ici, mes amis, en Apocalypse 14, verset 12, que se trouve la réponse. C'est là que nous avons la réponse à la question que Jésus a posée en Apocalypse 18, verset 8. « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et la réponse est oui, mes amis. Et la réponse est Apocalypse 14, verset 12 qui nous le donne. Il y a un peuple. C'est le peuple des souillés, c'est ça? Non, le peuple des saints et qui garde les commandements de Dieu et ils ont la, ainsi que la foi de Jésus. Nous avons là la réponse à la question posée par Jésus en Luc 18, verset 8. Mes amis, comprenons-nous ce qu'est la foi de Jésus? Vous savez, en tant qu'adventiste, nous parlons souvent des commandements de Dieu, n'est-ce pas? Mais avons-nous déjà entendu des prédications? Avons-nous des livres qui sont édités, qui expliquent au peuple ce qu'est la foi de Jésus? Mes amis, nous le devrions, car d'après l'inspiration, la foi de Jésus est l'un des piliers de notre foi. En effet, dans « Consult to Writers and Editors » à la page 30, l'Esprit de prophétie déclara, L'écoulement du temps en 1844 fut une période de grands événements, ouvrant à nos yeux ébahis la purification du sanctuaire céleste apparaissant dans les cieux et ayant décidé du rapport avec le peuple de Dieu sur la terre. Aussi, les messages du premier et du deuxième ange ainsi que du troisième déployèrent la bannière sous laquelle étaient inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un des points de repère dans ce message était le temple de Dieu, vu dans le ciel par son peuple qui aime la vérité, ainsi que l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du quatrième commandement exhibait ses puissants rayons sur le sentier des transgresseurs de la loi de Dieu. La non-immortalité des méchants est un vieux point de repère. Cette déclaration, nous l'avions considérée notamment avec le pasteur Allen lorsqu'il l'a introduit ce séminaire avec les piliers de notre foi. Et là, elle fait référence au commandement de Dieu et à la foi de Jésus dans une déclaration où elle parle des piliers de notre foi. Mes amis, je vous pose une question. Devrions-nous comprendre la foi de Jésus? Oui, nous le devrions. Et il nous a également été dit que les prédicateurs, voyez-vous, devraient en parler lors des committings. Dans The Review and Herald, le 22 mai de l'année 1900, au paragraphe 17, elle déclara « Dans l'œuvre ayant lieu lors de nos committings, nous devrions mettre en avant les vérités du message du troisième ange. » Il y a un S en plus. « Élevez l'étendard, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faites de cela le thème important. Ensuite, entourez-le par de puissants arguments et rendez-le encore plus vigoureux. Insistez davantage sur l'Apocalypse. Lisez, expliquez et appliquez ses enseignements. » Elle dit qu'il nous faut en parler du message des trois anges. Et elle dit de quoi? Des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, mes amis. Mes amis, devrions-nous comprendre la foi de Jésus? Nous le devrions. Lorsque nous considérons le message du troisième ange, nous voyons que les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont opposés à la marque de la bête et son image. En d'autres termes, éviter la marque de la bête et son image signifie garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus est en réalité la seule manière d'éviter la marque de la bête et de son image. Mes amis, comprenons-nous la foi de Jésus? Nous le devons, mes amis, cela est un devoir. Cela est un devoir. La question de Jésus en Luc 18, verset 8, était due à la connaissance prophétique que Jésus avait des derniers jours. Et Jésus savait que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et il savait que cela arriverait parce que les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. « J'ai combattu le bon combat, dit Paul. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et par son serviteur, Paul, Jésus déclara au jeune pasteur Timothée, ce que nous lisons en 1 Timothée 4, verset 6. « Si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Affermir les croyants dans la foi est le devoir de base, mes amis, des serviteurs de la parole de Dieu. En effet, en Éphésiens 4, versets 11 à 14, il nous est dit que c'est aussi lui, en parlant de Jésus, qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres pasteurs et les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Après avoir lu tous ces textes, toutes ces paroles de la plume de l'apôtre Paul, nous pouvons remarquer une chose. Nous pouvons remarquer que quand il emploie le terme « foi », l'apôtre Paul est en train ici de parler de l'enseignement, de la doctrine, mes amis. La saine, bonne et sainte doctrine. Et il y a plusieurs références, voyez-vous, dans plusieurs autres références, devrais-je préciser, dans la Bible, qui présentent la foi comme un système de doctrine, d'enseignement. Et celle que j'affiche à l'écran, eh bien, sont des quelques exemples. Lorsque vous prenez, et je serai, sera un plaisir pour moi de vous donner ma diapo, il y a déjà des vidéos qui sont en ligne et qui traitent de cela, d'accord, où vous retrouvez ces mêmes textes-là. Mais je serais ravi de pouvoir vous partager avec vous cela. Mais toutes ces références-là, lorsque vous les épluchez, vous vous rendez compte que, eh bien, là, on parle de la foi comme étant la doctrine, l'enseignement. Ainsi, si la foi est égale aux enseignements ou à la doctrine, la foi de Jésus doit alors signifier les enseignements ou la doctrine de Jésus. OK? Et voyez-vous, telle était la compréhension qu'avaient les pionniers adventistes. Remarquez ce que déclare William Miller dans son ouvrage Miller's Works, Volume 2, The Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the year 1842, la page 138. Vous m'excuserez, mais si je traduis le titre pour vous, vous ne serez pas en mesure de le retrouver parce que ça n'existe pas en français. Donc, je dois vous mettre le titre en anglais et vous pouvez après retrouver la référence. Mais par contre, j'ai traduit le texte, sinon vous ne pourrez pas le comprendre. À cette époque de religion populaire et où plusieurs, pour des motifs politiques et mondains, unirent leur nom au peuple de Dieu, il y en avait encore quelques-uns qui conservaient la doctrine du Christ et ne reniaient pas la foi. Mais il n'était pas le seul. Un autre pionnier, John Harvey Wagoner, dans son livre « The Spirit of God » à la page 138, il déclara « La foi de Jésus couvre l'ensemble du système de remédiation, l'évangile, et inclut toutes les doctrines et tous les devoirs particuliers de l'évangile. » Et Joseph Bates, quant à lui, déclara « Il me semble à présent que nous pouvons comprendre, genre dans le texte, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, les 10 qu'il écrivit sous les tables de pierre, et la foi de Jésus, ce qu'il enseigna à ses disciples, tel que dans les dernières instructions précédentes. » Eya Smith, et cet ouvrage, il existe en français, la maison d'édition La Voix Vivante le publie, donc c'est un extrait, l'ouvrage « Qu'est-ce qui fut cloué à la croix », la page 3, « les commandements de Dieu sont les commandements, alors les 10 commandements, sont les commandements de Dieu, auxquels nous amène le troisième message d'Apocalypse 14, en rapport avec la foi de Jésus, laquelle, donc la foi de Jésus, comprend tous les enseignements et les préceptes du Christ et de ses disciples dans le Nouveau Testament. » Apocalypse 14, 12. Et vous savez quoi? L'esprit de prophétie va dans ce sens, mes amis. Dans Manuscrit Police, volume 5, à la page 290, elle déclara « J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ils ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. » D'accord? Les enseignements de Jésus, le Nouveau Testament. C'est cela, mes amis. Permettez-moi de... juste de m'arrêter ici. Aujourd'hui, je vous présente un aspect de la foi de Jésus. Car en réalité, j'ai déjà eu l'occasion de présenter ce message de manière complète. Et il y a 4 parties dans ce message. Ce que nous allons voir ce matin n'est qu'une seule partie, parce que nous n'aurons pas le temps de voir les 4 parties. Mais par contre, je tiens juste à attirer votre attention sur ce que je considère être la troisième partie, c'est qu'elle dit, il ne s'agit pas simplement de guérir les malades. Quand elle dit simplement, elle implique que cela en fait partie. Mais il n'y a pas que cela, ok? Et pourquoi cela fait partie de la foi de Jésus? Eh bien, c'est parce que quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait, il prêchait et il enseignait. Donc, guérir les malades, c'est une partie de la foi de Jésus. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela, d'accord? La deuxième, dans ma manière de présenter ce message, la deuxième partie, nous allons la considérer la semaine prochaine, d'accord? Et la quatrième, je tâcherai d'en faire mention ultérieurement. Mais voilà, l'esprit de prophétie confirme cela. Et nous allons, à travers cette présentation, voir des textes. Et vous allez vous rendre compte, et vous vous rendez déjà compte qu'en fait, lorsque vous lisez vos Bibles, vous n'avez qu'un seul texte qui vous parle de la foi de Jésus. C'est Apocalypse 14, 12. Et c'est pour cela, en fait, que les auteurs et même les étudiants de la Bible ont du mal à comprendre ce qu'est la foi de Jésus. Mais je vais vous expliquer comment... Je vais vous expliquer, et d'abord, je vais vous dire qu'il y a d'autres textes qui en parlent, mais c'est que les traducteurs, malheureusement, n'ont pas fait un travail correct. Parce que lorsque vous prenez Apocalypse 14, verset 12, et là, nous allons faire un peu de grec. Vous m'excuserez, mais c'est nécessaire. Il est dit que... Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous savez, vous avez la morphologie, ce qu'on appelle la morphologie. Et dans le grec, la morphologie du mot, du nom Jésus ici, c'est le génitif en fait. Et lorsque vous avez le génitif, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est que ce nom qui est au génitif, il est le possesseur de ce qui précède en fait. Donc, lorsque vous avez Jésus qui, dans le grec, le terme « Jésus » qui est au génitif, c'est qu'en fait, il est le possesseur de la chose, d'accord? Et c'est pour cela que l'on peut savoir qu'il s'agit de la foi de Jésus, en fait. Et il y a d'autres textes, et tous les textes que je vais vous présenter, ce sont des textes où le mot « foi » précède Jésus, et le terme « Jésus » est lui-même est au génitif. Et c'est pour cela qu'on devrait traduire la foi de Jésus, et non pas la foi en Jésus, comme les traducteurs l'ont fait. Mais ça, c'est une parenthèse théologique, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous présenterai directement les traductions de la King James Version qui respectent cette règle du grec. Mais ainsi, nous voyons que la foi de Jésus peut être comprise comme la doctrine de Jésus. Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi l'une des autres raisons qui fait que cet enseignement n'est pas donné concernant la foi de Jésus? Mais mes amis, c'est parce que la foi de Jésus implique la doctrine du Fils de Dieu. Je répète, la foi de Jésus implique la doctrine du Fils de Dieu. En Jean chapitre 5, versets 17 et 18, où allons-nous? En Jean 5, versets 17 et 18, nous lisons là ce que Jésus déclara aux Juifs. Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ici, Jésus était en train d'enseigner aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu. Il leur parlait de sa filialité, du fait qu'il était le Fils de Dieu. Et voyez-vous, c'est cette partie de sa doctrine, c'est cette partie de son enseignement qui rebutait les Juifs. D'accord? Cela faisait partie de sa doctrine. Et cette partie-là rebutait les Juifs. Et c'est pour cela que Jésus déclara plus loin en Jean chapitre 7 cette fois-ci, deux chapitres plus loin, du verset 14 au verset 16. Jean 7, verset 14 à 16. « où nous lisons « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs étaient étonnés et disaient « Comment cet homme connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises ?» Jésus leur répondit « Et faites bien attention à ce qui va suivre. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Mes amis, quelle était la doctrine que le Père donna à Jésus? Parce qu'il est important de la connaître. Puisque, voyez-vous, Jésus dit que sa doctrine n'est pas de lui, de celui qui l'a envoyé. Donc, quelle était cette doctrine que le Père donna à Jésus? On pourrait se dire que, on n'était pas dans l'éternité avec le Père et le Fils pour savoir ce qui se disait. Donc, on ne peut pas le savoir. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque l'armée d'un pays doit envoyer quelqu'un en mission, en terre étrangère, vous savez, lorsque le missionnaire est dans son pays, il pourrait avoir besoin d'informations très précises. Alors, bien évidemment, on ne va pas tout lui réapprendre, tout ce qu'on lui a appris précédemment. Mais il se pourrait que le missionnaire ait besoin d'informations bien précises. D'accord? Une fois arrivé en terre étrangère. Mes amis, avant de venir sur cette terre, il est vrai que Dieu a dit beaucoup de choses à Jésus, son fils. Mais la Bible rapporte que le Père déclara à Jésus, en Hébreux 1, verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils ?» Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai son père, et il sera mon fils. Vous savez, les évangiles rapportent que le Père n'a parlé que 3 fois. Donc, lorsque le Père parle, mes amis, cela est très important. Lorsque Jésus démarra sa mission dans le champ étranger de cette terre, Dieu n'a pas rappelé à Jésus tous les enseignements qu'il avait reçus au ciel. Mais il lui donna, il lui communiqua celui qui était le plus important, lequel nous lisons à nouveau, excusez-moi, dans Matthieu 3, en Matthieu 3, verset 17. Et on l'a lu avec le pasteur Alan Stump. « Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » La filialité du Christ, le fait que le Christ soit le Fils de Dieu, mes amis, est la doctrine la plus importante que Jésus a reçue de son Père. Nous pouvons donc comprendre pourquoi les évangiles, mais aussi la Bible entière, insistent souvent sur cette partie de sa doctrine. Mais voyez-vous, en dépit de la clarté de cet enseignement, certaines personnes, eh bien, déclarent que « Oh, l'enseignement du Fils de Dieu n'est pas simple. Cela cache un mystère. » En Jean, chapitre 18, au verset 20 et 21. Où allons-nous? En Jean, chapitre 18, verset 20 et 21. Lorsque le souverain sacrificateur l'interrogea concernant sa doctrine, Jésus lui répondit ce que nous lisons là. « J'ai parlé, dit-il, ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs s'assemblent de toutes parts. Et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que j'ai dit. Ces gens-là savent ce que j'ai dit. » Le mot « ouvertement » dans ce passage vient du terme grec « paresia ». Et ce terme « paresia » signifie « franchise »,« franchement »,« publicité »,« librement »,« clairement »,« ouvertement ». Ici, Jésus était en train de dire au souverain sacrificateur, et je vais paraphraser ce qu'il est en train de dire, pour que vous puissiez bien comprendre. Tu m'interroges concernant ma doctrine, mais ce que j'ai dit au monde, dans la synagogue et dans le temple, a toujours été clair et franc. Et cela est tellement vrai que ceux qui m'ont entendu sont eux-mêmes capables de t'enseigner ma doctrine. » Mes amis, voici la doctrine qui vient de Jésus. Elle est si claire, elle est si franche que quiconque l'entend des lèvres de Jésus est capable d'enseigner la foi de Jésus, ce que Jésus croyait, de rapporter son enseignement. Il n'y avait pas de mystère, mes amis, dans la bouche de Jésus lorsqu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Mais voyez-vous, les théologiens mondains d'aujourd'hui, en commençant par Andrews University jusqu'à aller à Collonges, ils disent « Oh non, la doctrine de Jésus concernant sa filialité n'est pas si claire et si franche. Vous savez, il joue le rôle du Fils, comme on l'a vu avec le pasteur Allen. Il nous a montré, il joue le rôle, c'est un rôle qu'il joue. Mais il n'est pas, en réalité, il n'est pas vraiment le Fils de Dieu. En réalité, il est la seconde personne de la Trinité. Et voyez-vous, les gens illettrés ne peuvent pas comprendre cela. Et si comme Jésus, vous vous amusez à réfuter cela, à réfuter ce qu'ils disent, en disant que ceux qui entendent Jésus, ceux qui n'ont pas d'éducation, ceux qui ne sont pas allés dans les écoles, eh bien, sont capables de comprendre sa doctrine, il est alors probable qu'ils vous fassent ce qu'ils ont fait à Jésus au verset 22. Remarquez. Lorsqu'ils lui disent cela, un des sergents qui était présent donna un soufflet à Jésus. C'est-à-dire qu'il l'a frappé, en fait, en lui disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Lorsque vous osez remettre en question l'enseignement corrompu qui est distillé par les autorités religieuses, vous blessez leur orgueil. Et ils ont juste envie de vous frapper, mes amis, de vous persécuter, de vous faire disparaître, parce que vous êtes une menace pour eux. Mais revenons à notre propos. En d'autres termes, ici, ceux qui ont appris de Jésus, ceux qui étaient assis aux pieds de Jésus, simplement, eh bien, ils peuvent dire à ces théologiens, ce sont vos enseignements qui empêchent à la doctrine de Jésus d'être enseignée. Et voyez-vous, peu importe ce que déclarent les corps religieux, nous devons être comme les véritables croyants du premier siècle après Jésus-Christ, lesquels n'ont pas renié la foi. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 2, versets 13 et 12. Où allons-nous? Apocalypse, chapitre 2, versets 13 et 12. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom. Et tu n'as point renié, quoi? Ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où habite Satan. Et j'aimerais partager avec vous le commentaire. Parce que là, remarquez que Jésus, il parle à cette église, notamment à l'ange de l'église, et il dit que tu n'as point renié ma foi. Lorsque Jésus dit tu n'as point renié ma foi, il s'agit bien de la foi de Jésus. Ok. J'aimerais partager avec vous un commentaire qui résume ce que je voudrais vous faire comprendre. Dans l'ouvrage Daniel and Revelation, à la page 354, le pasteur E.A. Smith déclara « Le mot Pergame signifie élevé, élévation. » La période couverte par cette église peut être située à partir des jours de Constantin, ou plutôt à partir de sa prétendue conversion au christianisme en 323 après Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement de la papauté en 538 après J.C. Ce fut une période durant laquelle les authentiques serviteurs de Dieu durent lutter contre un esprit d'habitude mondaine, de fierté et de popularité au sein des prétendus disciples du Christ, et aussi contre les œuvres virulentes du mystère de l'iniquité qui résulta finalement dans le développement complet de l'homme de péché pontife. Là, on parle du pape ici. Et après, il continue en commentant « Où Satan a son trône ?» Christ prit connaissance de la situation défavorable de son peuple durant cette période. Le langage n'est probablement pas destiné à indiquer un lieu. Pour ce qui est de l'endroit, Satan œuvre partout où il y a des chrétiens. Mais il est certain qu'il y a des temps et des saisons où il œuvre avec une puissance particulière. Et la période couverte par l'église de Pergame fut l'une d'entre elles. Durant cette période, la doctrine du Christ était en train d'être corrompue. Le mystère de l'iniquité agissait et Satan était en train de poser les fondements même de ce très prodigieux système de méchanceté, la papauté. Ce fut là l'apostasie prédite par Paul en 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La foi de Jésus a été corrompue par le mystère de l'iniquité, la papauté. Et ceux qui ont accepté son œuvre ont renié ainsi la foi de Jésus. Mais quels étaient les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer aux enseignements de la foi de Jésus? Mes amis, la réponse à cette question est une clé pour comprendre le combat de la foi que les saints d'Apocalypse 14, 12 doivent combattre. En effet, Apocalypse 2, verset 3 et Apocalypse 14, verset 12 sont les seuls versets du livre de l'Apocalypse où la foi mentionnée est clairement identifiée comme celle de Jésus. Je reprends Apocalypse 2, verset 13 et Apocalypse 14, verset 12 sont les deux seuls et uniques versets du livre de l'Apocalypse où la foi mentionnée est très clairement identifiée comme celle de Jésus, ce qui implique une pureté doctrinale complète. De plus, le contexte de ces deux versets, Apocalypse 2, 13 et Apocalypse 14, 12, eh bien, fait mention de l'œuvre de Satan, la papauté. Et oui, ici on nous en parle, et en Apocalypse 14, il est fait question de le message des trois anges de la bête. Donc, de nouveau, quels étaient donc les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer à la foi de Jésus? La déclaration suivante, laquelle nous vient de la plume du pasteur James White, je pense, est une excellente réponse. En effet, il déclara dans le périodique The Advent Review and Sabbath Herald, comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont amenées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité et l'état conscient des morts dans une vie de misère. Voilà, mes amis, d'après le pasteur James White, quelles étaient l'une des doctrines corrompues qui sont venues remplacer la foi de Jésus. Voilà quels étaient les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer à la foi de Jésus. Et ceux qui ont accepté cela, mes amis, ont de ce fait renié la foi de Jésus. Bien-aimés, pensez-vous que ce qui constitua une renonciation à la foi de Jésus durant les premiers siècles constituera également une renonciation à la foi de Jésus à l'époque d'Apocalypse 14, 12, à savoir à partir de 1844? Je le pense, mes amis, je le pense, tout comme le pasteur James White, voyez-vous. En effet, il continue en disant, « La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance, mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sur la terre? Nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, et il précise, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe, dit-il, qui vit juste avant le second avènement, ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut par Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets, et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. Il devrait donc être clair pour nous qui vivons à l'époque d'Apocalypse 14, 12, mes amis, que ceux qui continuent à croire et à pratiquer le baptême par aspersion ou qui sanctifient le dimanche sont en train de renier la foi de Jésus, n'est-ce pas? Et bien aimé, il devrait aussi être clair pour nous que ceux qui croient en la Trinité sont également en train de renier la pure et sainte foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous devons comprendre la foi de Jésus, mes amis. Lorsque nous parlons aux gens concernant la doctrine de Dieu, le fait qu'il n'y ait pas de Trinité, mais que nous avons Dieu le Père, qui est le seul vrai Dieu, Jésus-Christ qui est son Fils et qui est l'image du Dieu vivant, et que le Fils a la plénitude de l'Esprit en lui, et qu'il nous l'accorde, et l'Esprit que nous recevons est l'Esprit de consolation, le Père nous console par son Fils, eh bien, lorsque nous exposons aux gens, eh bien, la majorité d'entre eux n'arrive pas à voir comment la doctrine de la Trinité est et sera impliquée dans l'obtention de la marque de la bête. Vous avez entendu ce que je vous ai dit là? Les personnes qui croient en la Trinité, mes amis, beaucoup d'entre eux vous disent « Oui, mais ce qui est important, c'est de ne pas recevoir la marque de la bête. Donc, ton adoration là, il n'y a pas de Trinité, ce n'est pas important. » Mes amis, les gens ne se rendent pas compte que la doctrine de la Trinité va les amener directement dans l'obtention de la marque de la bête. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. Lorsque nous considérons le message du troisième ange, remarquez que les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont clairement opposés. Ils sont clairement opposés à la marque de la bête et de son image. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Apocalypse 14, 12 nous donne une caractéristique. J'ai fait une erreur là, mais corrigez-moi s'il vous plaît. Deux caractéristiques, mes amis. Apocalypse 14, 12 nous donne deux caractéristiques. Et on insiste sur les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Mais mes amis, les Juifs aussi observent le sabbat, mes amis. Et pourtant, quand la marque du dimanche va arriver, ils vont le prendre. Ils vont la prendre. Parce que pour éviter la marque de la bête, mes amis, il nous faut garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. Si on me coupe ma jambe gauche, est-ce que je peux continuer à marcher là, sans rien d'autre? Je peux continuer à marcher? Non, je pourrais sauter. Je n'ai pas dit me déplacer. Je pourrais sauter. Je pourrais me déplacer. Mais est-ce que je peux continuer à marcher? Non, j'ai besoin de mes deux pieds. Bon, Dieu va nous deux pieds. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus. On doit marcher avec les deux. Pourquoi on n'en a qu'un seul? Vous comprenez? Mes amis, c'est cela. Dieu nous a donné deux pieds en tant que peuple. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus sont l'unique manière d'éviter la marque de la bête et son image. Mais allons un peu plus loin. En Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 15. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous-y promptement. Promptement. Colossiens 1, versets 12 à 15. Et là, nous lisons. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui, c'est qui le lui dont on parle ici? Jésus. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Le fait que Christ, le Fils de Dieu, soit l'image de Dieu, eh bien, voyez-vous, cela est un enseignement clair et répétitif de l'apôtre Paul. En effet, en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, où allons-nous? C'est exact. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Là, nous lisons que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin que nous ne soyons pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Et en hébreu, chapitre 1, verset 3, comme si cela ne suffisait pas de texte, remarquons la chose suivante. En hébreu 1, verset 3, il nous est dit, en parlant de Jésus, qui est la splendeur de sa gloire et l'empreinte, c'est-à-dire l'image en fait, l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, etc. Jésus-Christ est quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Mes amis, sous le message du troisième ange, il n'y a que deux camps possibles. Il y a le camp de la bête, où les gens adorent la bête et son image, Apocalypse 14, verset 9, et en reçoivent la marque ou le signe, Apocalypse 14, verset 11, et le camp des saints, où les gens adorent Dieu et son image, Jésus-Christ. Et oui, car ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Or, Jésus est l'image de Dieu. D'accord. Apocalypse 14, 12 et Apocalypse 14, 1, ces personnes qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, qui adorent Dieu et son image en observant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, sont représentées en Apocalypse 1, en Apocalypse 14, verset 1, tout du moins, comme ayant le sceau de Dieu. Bien-aimés, Dieu est esprit, nous dit Jésus, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les saints d'Apocalypse 14, 12 adorent Dieu et son image, c'est-à-dire son Fils unique engendré. Et voyez-vous, le signe que nous recevrons au front, mes amis, la marque que nous recevrons au front, elle dépendra de notre adoration. Si vous adorez la bête et son image, vous en prendrez la marque. Mais si vous adorez Dieu et son image, en observant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, vous allez recevoir le sceau de Dieu, mes amis, la marque divine, son caractère. Et c'est pour cela que nous devons demeurer dans la foi de Jésus, dans sa doctrine, afin de garantir notre adoration. Rendons-nous en 2 Jean, chapitre 1, versets 9 à 11. Où allons-nous? 2 Jean, c'est cela. Chapitre 1, versets 9 à 11. 2 Jean 1, versets 9 à 11. En réalité, il n'y a qu'une seule épître, un seul chapitre dans cet épître. Et là, nous lisons du verset 9 à 11. « Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. » Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. Bien des fois, nous entendons que la doctrine n'est pas si importante, que eh bien, c'est l'amour, la chose la plus importante. Mais voyez-vous, les personnes qui déclarent cela ne vous diront jamais que l'amour agapé ne se réjouit point de l'injustice, mais elle ne se réjouit que de la vérité. Comme on peut le lire en 1 Corinthiens 13, verset 6. Bien-aimés, l'amour qui vient de Dieu ne conduira jamais un croyant ou une église à accepter des erreurs, voyez-vous. Et lorsqu'une église tombe dans les ténèbres de l'erreur, c'est parce qu'elle a accepté l'amour de ce monde. Et concernant la chute des Juifs, de la nation juive, ainsi que des églises romaines, qui ont donné naissance à l'Église de Rome, la papauté. Eh bien, l'inspiration nous dit ce qui suit dans Tragédie des siècles, à la page 412, paragraphe 3. En s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les païens, l'Église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant l'appui des pouvoirs de la terre, Rome s'est rendue coupable du même péché et encourt la même inculpation. Remarquez que ces corps religieux furent condamnés par Dieu en raison de leur alliance, en raison de l'alliance qu'ils firent avec les puissances païennes de ce monde. Mais qu'en est-il de la suite? Eh bien, veuillez prêter attention à la déclaration suivante, toujours dans le même ouvrage, à la même page, mais un autre paragraphe. Elle dit « Babylone est appelée la mère des impudiques. Ses filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ses doctrines et à ses traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne les organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. » Je vous pose une question. Est-ce que les femmes qui sont à Terre-Saint-Ville là-bas, qu'on appelle des prostituées, est-ce qu'elles sont sorties du ventre de leur mère prostituées? Non! Elles le sont devenues, pour x, y raison. Dieu connaît. Et Dieu les aime, vous savez ça? Vous savez que Dieu les aime? Ah, Dieu les aime, mes amis. Jésus avait une ancienne prostituée parmi son corps de disciples, vous savez ça? Mais ces femmes malheureuses qui sont là-dedans, elles ne sont pas arrivées au monde prostitué. Elles le sont devenues. Voyez-vous, la prostitution n'est pas une personne, ce n'est pas une race. C'est un comportement, mes amis. L'Église adventiste du septième jour était censé être le corps religieux durant la dispensation du lieu très saint du sanctuaire céleste. Cependant, en raison de ce que l'histoire de cette église nous apprend et de ce que nous avons vu durant cette étude, notamment l'abandon de la foi de Jésus par la dénomination, et ce pour s'attacher à la doctrine de Rome, comme les églises protestantes avant elles l'ont fait. Eh bien, mes amis, il est clair, et j'ai toute l'autorité biblique et de l'esprit de prophétie pour vous dire ce que je m'apprête à vous dire. Il est clair qu'elle est devenue une fille de la grande prostituée et que les déclarations précédentes et suivantes peuvent également s'appliquer à elle. Tragédie des siècles, page 413, paragraphe 1. Je continue la lecture du même paragraphe. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement, il se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce message, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion des disciples de Jésus? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ces églises sont tombés par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël, le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Ézéchiel 16, versets 14 et 15. Considérons maintenant comment le rejet de la foi de Jésus conduira la dénomination des adventistes du septième jour à rejeter le quatrième commandement. Parce que c'est ce que je vous disais précédemment, en fait. Beaucoup ne comprennent pas qu'une fausse adoration, l'adoration de faux dieux, va conduire les observateurs du sabbat, mes amis, à délaisser l'observation du sabbat. Vous savez, la papauté adore le dieu qui revendique la sainteté du dimanche. Or, ce dieu est la Trinité. Henri Tuberville, dans The Douay Catéchisme, à la page 125, dans, eh bien, déclara suite à une, la question suivante, question 1092, qu'est-ce que le dimanche ou jour du Seigneur en général? Et la réponse, c'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité et en mémoire du fait que Christ notre Seigneur se releva d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur. Il est également appelé jour du soleil en raison de l'ancienne dénomination romaine Dies Solis, le jour du soleil pour lequel il fut sanctifié. Mes amis, le Dieu du sabbat, ce n'est pas la Trinité. La Trinité, c'est le Dieu de la sanctification du dimanche. Et c'est Rome qui le dit. Ce n'est pas moi. Et voyez-vous, afin d'être en harmonie avec son nouveau jour de repos, l'Église catholique devait adorer le Dieu de ce jour. Et oui, parce qu'en 321, ils ont changé le jour de repos. Et les conciles qui ont suivi, ils ont changé le Dieu et ils ont adopté le Dieu de ce jour, la Trinité. Et il a fallu...
Le concile de Nicée.
Nicée, Constantinople, voilà. 324-389, si je ne me trompe pas. Voyez-vous, il a fallu du temps pour que l'Église catholique accepte la doctrine de la Trinité, après avoir changé le jour du repos. Mais cela arriva. Il a fallu du temps, mais cela est arrivé. Or, quand un corps religieux observant le sabbat du septième jour souhaite être en harmonie avec le Dieu trinitaire, pensez-vous que ce corps religieux puisse continuer à adorer ce Dieu durant un jour qui n'est pas le sien? Non. Non, mes amis. Je dois vous dire la chose très clairement, mes amis. La dénomination adventiste, aussi improbable que cela pourrait vous paraître, elle est son destin à l'heure actuelle. Elle se destine à délaisser le sabbat, mes amis. Et c'est pour cela qu'aux États-Unis, vous avez des églises adventistes qui ouvrent leurs portes le dimanche. Ils font un culte le sabbat et un culte le dimanche. Et les gens qui ne peuvent pas venir le sabbat, ben, ils y vont le dimanche. Sauf qu'à un moment... Mais ça ne vous rappelle rien? Est-ce que vous avez étudié la manière dont le sabbat a été instauré? Le sabbat du dimanche a été instauré? C'était ça. Ils ont mis leur culte le dimanche et à une époque, il y avait les deux, le sabbat et le dimanche. Et puis, des années après, ils ont enlevé le sabbat, mes amis, et ils ont fait que le culte du dimanche. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Lorsque la dénomination a accepté la Trinité, mes amis, dans les années 1990, ils ont signé un document qui s'appelle le BEM, Baptême, Eucharistie, Ministère. Autrement dit, tous les signataires de ce document reconnaissent le baptême des autres églises signataires. La sept scènes qu'ils font, c'est l'Eucharistie. Mes amis, cela est une abomination. C'est une abomination, l'Eucharistie. C'est quoi? C'est le prêtre qui a le pouvoir de prendre Jésus, de le faire descendre du ciel et de le mettre dans l'hostie. Et c'est vraiment le corps du Christ que vous mangez. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. C'est un symbole, le pain. Et en plus, cela est rond. C'est le soleil qui est là. Et quoi encore? Le M pour ministère. Et ça, c'est le plus fort, mes amis. Parce que c'est pour cela qu'il y a des échanges de chair. C'est pour cela qu'il y a des échanges de chair. Que vous voyez des pasteurs des pasteurs baptistes, évangélistes, pentecôtistes, qui viennent et qui rentrent dans l'église adventiste et qui prêchent. Et pareil, des pasteurs adventistes qui vont dans les autres églises et qui prêchent. Mais pourquoi cela a lieu? Personne ne se dit, mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'ils ont signé ce document BEM. Et du coup, ils sont rentrés avec ça vraiment dans le mouvement œcuménique, mes amis. Ils sont vraiment rentrés dans le mouvement œcuménique. Mais les choses se font petit à petit. On oublie comment, mes amis, le dimanche a été institué. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Rappelez-vous, Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui se fera, mes amis. Pas à pas, Satan met les choses en place. Mais nous, on dort. Mais pendant ce temps, lui, il ne dort pas. Que Dieu nous aide, mes amis, que Dieu nous aide. Et c'est pour cela que je vous dis que la destinée de la dénomination des Adventistes du septième jour, adorant la Trinité, est en fait d'abandonner le sabbat de l'Éternel pour adorer son Dieu, la Trinité, durant le jour qui lui est consacré, à savoir le dimanche.
Je crois qu'on appelle ça l'Église mondiale.
C'est cela. l'Église mondiale. Et qui est le chef? Qui sera le chef? Qui a été désigné être le chef de cette Église mondiale? Va brûler? Le 31 octobre 2017, qu'est-ce qui s'est passé? On a fêté quoi? La fête? La réforme? Vous savez quoi? Ce jour-là, le président actuel, Ted Wilson, il était en Russie. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la réforme continue dans nos cœurs. Attendez, normalement, je fais la réforme dans mon cœur et après, ça se manifeste à l'extérieur. OK? Mais si je vous dis que je vais continuer à marcher sous le carrelage, mais sur une autre ligne, ça veut dire que j'ai fait un changement. Ça veut dire que je ne continue plus, en fait. Lorsque Ted Wilson a dit ça, mes amis, en fait, il a dit, mais les gens n'ont pas compris. Vous savez, ces hommes-là, ils savent parler, hein? Ils savent dire les choses. Et c'est subtil, mes amis. Si vous ne pesez, moi, je pèse les mots. Je regarde ce qu'ils disent, il faut peser les mots quand les gens parlent, mes amis. En fait, il a dit tacitement que, en fait, on arrête ça, en fait. La réforme dans laquelle on était engagé, on l'arrête et on la continue dans nos cœurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien d'extérieur qui sera fait comme réforme, en fait. Et les gens disent amen à cela. Ils continuent à penser que c'est l'Église de Dieu qui est là, que c'est l'organisation de Dieu qui est là. Alors que celui qui est à la tête même déclare ces choses-là, mes amis. Et comme pour Rome, il faudra du temps. Mais voyez-vous, cela arrivera. Et est-ce que vous pouvez maintenant voir comment la doctrine de la Trinité, mes amis, mais aussi toute fausse conception du véritable Dieu est en train de préparer un peuple à recevoir la marque de la bête et de son image? Parce que la marque qui est reçue au front, mes amis, je vous dis, c'est le nom de Père et du Fils. Parce que c'est le Dieu créateur. Et est-ce que vous savez qu'il y a 7 textes dans la Bible qui nous disent que la création a été faite par le Père et le Fils? Notez ça. Proverbe 30, verset 4. Je ne le prends pas. Je regarde juste la référence parce que Proverbe 30, c'est ça. Proverbe 30, verset 4. Jean 1, verset 1 à 3. Deuxième texte. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que à la création, il y avait la parole et Dieu. Donc Jésus est Dieu. Troisième texte qui est 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutes choses procèdent du Père et elles sont par Jésus. On a les deux êtres encore. Après, on a Éphésiens 3, verset 9. Là, il est très clairement marqué que Dieu a créé toutes choses par Jésus. Éphésiens 3, verset 9. Après, nous avons Colossiens 1, verset 15 à 17. On nous dit que tout a été créé par Jésus. D'accord? Et puis, vous avez ensuite Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, où là encore, on nous dit que Dieu a tout créé par Jésus. Et après, vous avez le même chapitre d'Hébreux, mais le verset 8 et 9, si je ne me trompe pas. Le verset 10, Hébreux 1, verset 10. Et là, on dit que c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et le Père qui est au-dessus du Fils lui dit ça. Donc, il n'y a que les deux, les 7 textes, mes amis, dans la Bible. Donc, la divinité, mes amis, qui est à l'origine du sabbat, ce n'est pas la Trinité, mes amis, c'est Dieu le Père et son Fils. Oui?
Non, après, avant de s'habiller, on m'a posé 13 questions.
Ah. Déjà, c'est franc-maçonnique. Il y a beaucoup de franc-maçonnerie qui s'est infiltrée dans l'Église adventiste. Et d'ailleurs, je tiens à dire ici que la pierre tombale qui est sur la tombe d'Ellen White, ce n'est pas la famille White qui l'a mis, mes amis. D'accord? C'est un franc-maçon qui était à la tête de la Review and Herald qui a offert la pierre pour la mettre sur la tombe d'Ellen White. Donc, lorsque vous entendez des gens vous dire que oui, Ellen White était franc-maçon, elle a toujours dénoncé les organisations secrètes, mes amis. Il y a une deuxième chose, par contre, les 13 vœux de baptême. Dans ces vœux de baptême, et pour ceux qui ont ces vœux de baptême, que les pasteurs vous font signer là, après avoir été baptisés et qu'on vous lit avant le baptême, remarquez ce qui est dit là. Vous devez croire dans la Trinité. Est-ce que tu crois que Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit? Après, on te dit aussi, que est-ce que tu t'engages à soutenir l'Église adventiste? En fait, quand tu te fais baptiser, en fait, tu donnes ta vie à l'Église adventiste et à la Trinité. Et tu t'engages aussi dans ces vœux à soutenir par tes 10 000 offrandes ce système, en fait. J'invite les gens qui se sont fait baptiser dans l'Église à réfléchir à ce qu'a été leur parcours. Oui? Voilà. 13 sabbats, 13 divisions. Mes amis, cela n'existait pas. Tout ce système-là n'était pas en place à l'époque d'Ellen White. C'était pas comme ça. Mes amis, en raison du fait qu'elle soit devenue une fille de la grande prostituée, en acceptant, entre autres, la doctrine de la Trinité, les membres de la dénomination adventiste du septième jour, aussi bien que les autres groupes chrétiens, ont besoin de ce message, mes amis. Parce qu'il y a beaucoup de membres du peuple de Dieu dans ces églises, voyez-vous. Ils sont en captivité à Babylone, dans les églises. Et Dieu les appelle mon peuple. Mais s'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu, à ce moment-là, ces gens que Dieu appelle mon peuple, ce ne sera plus son peuple. Ils seront des Babyloniens parce qu'ils auront choisi ce royaume-là, cette nationalité-là. Mais il y en a qui sont en captivité et il faut les appeler pour qu'ils puissent sortir de Babylone et revenir et dans le pays promis et en commençant par réformer leur adoration. Et Dieu a encore beaucoup de membres de son peuple dans ses églises. Et ils ont besoin de savoir comment obtenir la victoire sur la bête et sur son image. Ils ont besoin de connaître que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité? Non. Et qui est victorieux du monde, dit 1 Jean 5, verset 4 et 5. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mes amis, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous allez être vaincu par le péché. Et remarque, il est parlé de victoire ici. Or, en Apocalypse 15, il nous est parlé de ceux qui ont vaincu la bête et son image. Si vous croyez en la Trinité, mes amis, vous ne pouvez pas vaincre la bête et son image parce que vous êtes sous la coupe de la bête. Et voilà, mes amis. Voilà comment la foi de Jésus nous montre toutes ces choses. Et nous n'avons considéré qu'une seule partie de la foi de Jésus, mes amis. Qu'une seule partie. Puisse Dieu nous aider. Je vous invite à prier pour clôturer cette présentation. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu nous envoies un message solennel pour cette fin des temps. Tu nous envoies le triple message d'Apocalypse 14. Et le troisième ange nous donne une révélation très claire des caractéristiques de ton peuple. Père, donne-nous de pouvoir bien saisir ce que sont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Aide-nous à ne plus être boiteux, à n'avoir qu'une seule jambe, mais à marcher sous nos deux jambes, les commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Ainsi, nous serons victorieux. Nous aurons la victoire sur la bête et sur son image. Non pas que nous ayons quelques mérites, mais parce que nous aurons simplement accepté le message que tu nous envoies. Aide-nous, Père, à prendre une décision. En ce matin, il y en a qui sont dans la vallée de l'indécision et qui doutent et qui ne savent pas s'il faut te suivre. Mais Père, il n'y a plus de doute à avoir. Nous devons suivre ta parole, ton message et marcher dans la vérité et te laisser les conséquences du fait que nous décidons de marcher dans la vérité sans compromis. Aide-nous, Père, à prendre décision maintenant, car si nous remettons cela à plus tard, nous ne savons pas si nous pourrons prendre cette décision, car l'ennemi, il ne dort pas. Alors aide-nous, Seigneur, et donne à mes frères et sœurs ici prosternés et à ceux qui regarderont l'enregistrement de pouvoir prendre la décision maintenant de te servir, de ne pas attendre, car demain ne nous appartient pas. Alors aujourd'hui, tu nous dis, si nous entendons ta voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Alors aide-nous, Père, bénis-nous et continue à œuvrer dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour Jésus que tu nous as donné. Nous t'en prions dans son nom et pour ta gloire. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.